Et là c'est l'exception qui confirme la règle. On serait bien dans la merde s'ils étaient tous français dans l'équipe de France. Et comme il est inquiet chaque fois qu'il y pense, cela...
Bonjour à toutes et à tous, il est 17h, vous avez certainement reconnu cette petite musique de Charlie Brown. Nous sommes le mercredi 13 mars 2024, 1h30 pour vous parler de livres, échanger avec des acteurs de la chaîne du livre, 1h30 jusqu'à 18h30 à écouter au fil des pages sur Radio Libertaire. Aujourd'hui, Frédéric, Agnès, Marie, Dominique, Francis et notre invitée Marie-Hélène Bellac pour la biographie de Louise Michel qu'elle a publiée récemment aux éditions Perrin. Frédéric, est-ce que nous avons des annonces ?
Pardon, excusez-moi, j'avais oublié le micro. Pardon, excusez-moi. Alors, donc, je répète, nous avons une annonce. C'est le Ciné de la Commune qui vous propose un documentaire de Raphaël Bruyas qui s'appelle « Schkoun, les sauvages ». C'est le mercredi 20 mars 2024 à 20h à la librairie Publico, 145 rue Amelot, Paris 11e. Alors, il y a deux métros, Oberkampf ou Fille du Calvaire. Le synopsis, c'est qui les sauvages ? La première question que se sont posées les habitants du quartier de Montreneau à Saint-Étienne, excusez-moi si c'est pas Montreneau, choisi comme décor principal pour la série de Canal+, Les Sauvages. Un témoignage sur les représentations en quartier populaire. Alors c'est le 20 mars à 20h, venez-y nombreuses et nombreux. Merci. Voilà, à toi, Francis.
Merci. Alors, le 18 mars 2024 commencent les cérémonies pour la commémoration des débuts de la Commune de Paris, 1871. Parcours sur les traces de la presse pendant la Commune. Vous avez donc rendez-vous, si vous le souhaitez, bien sûr, rendez-vous à 18h, rue du Louvre, juste devant la Bourse du Commerce, au métro Louvre-Rivoli ou bien Léal, et vous aurez un parcours ponctué de récits, notamment d'André Léo, mais pas que, tous ces journalistes, Jules Vallès et compagnie, qui ont animé la Commune de Paris et la presse de la Commune. N'hésitez pas, en plus de nous écouter, à nous écrire. Notre adresse postale, Librairie Publico, 145 rue Amelot, Paris 11e. Vous pouvez déposer des livres, nous proposer des ouvrages. Nous en avons déjà reçu un certain nombre. Je tiens tout de suite à le dire, pour ceux qui nous ont déjà déposé, que les livres, nous les lisons. Autrement dit, nous ne répondons pas tout de suite et nous ne les présentons pas tout de suite avec une vague relecture du communiqué de presse. On les lit pour apprécier leur intérêt. Et vous pouvez aussi déposer une information sur le blog du groupe Commune de Paris. Il suffit de cliquer sur « Contact » sous la banderole qui est dessinée par notre ami Tardy. Au programme de cette émission, on va beaucoup parler des femmes, parce qu'on n'est pas très loin du 8 mars. Alors les femmes sont des artistes, des peintres libres, notamment. Et à Montmartre, il y en eut quelques-unes. La plus célèbre fut peut-être Suzanne Valadon. Et Agnès va nous présenter cette femme, son talent et un catalogue publié à l'occasion d'une exposition itinérante en France. L'exposition a été à Metz, à Nantes, et à partir du 11 avril, donc c'est bientôt, elle est au Musée national d'art de Catalogne à Barcelone. Magnifique ville, superbe musée, très belle exposition, et puis cette femme, Suzanne Valadon, Agnès.
Oui, en effet, je voulais vous parler de cette femme, mais premièrement, vous invitez à la lecture d'un livre qui s'appelle « Utrillo, mon fils, mon désastre » selon Suzanne Valadon. Un livre de Corinne Samama aux éditions Atelier Henri Dougier. Ça fait partie de la collection « Le roman d'un chef-d'œuvre » de 2023. Ce roman illustre le quartier Montmartre des années 1880 et 1900, la précarité de ces familles, des petits métiers et d'artistes qui s'y étaient installés. Site d'habitation modeste où Suzanne Valadon vivait avec sa mère blanchisseuse quand elle accoucha à 18 ans de Maurice Utrillo, seule et bien embarrassée par lui pour son avenir. Ce livre d'une telle mise en scène théâtrale nous envoie chez ces dames en blouse blanche des hôpitaux de la naissance de Maurice Utrillo à Suzanne Valadon, vieillissante, prise d'une crise d'angoisse et hospitalisée. Suzanne Valadon, à la naissance de son fils, débutait sa carrière d'artiste. Elle avait été formée par Degas, Toulouse-Lautrec, Renoir, dont elle était aussi le modèle. Et elle fréquentait des artistes comme Van Gogh, Stylon, tant et si bien que ce sera sa mère qui élèvera le petit Maurice Utrillo. Elle formera néanmoins son fils aux études artistiques, en espérant le détourner de son addiction à l'alcool.
Ah oui, c'est pour ça qu'elle considère que c'est un désastre.
Tout à fait.
Elle est un peu rude hein, quand même dans la formule, mais enfin...
Les premières toiles de Maurice, représentant les quartiers de Montmartre, auront un grand succès, tout comme ses premières expositions. Et contribueront à éclipser sa mère.
Elle oui, ça aussi, elle ne vivra pas très bien.
Tout hein, à c'est fait. Ça. Elle ressentit tout cela en vieillissant, au futur départ en mariage de son fils, un grand désarroi. Sa culpabilité d'avoir livré son enfant à sa grand-mère, sans répondre aux besoins et matériels et affectifs qu'il méritait, et l'état de dépendance qu'il eut si jeune à l'alcool, mais aussi le signal de la fin de sa notoriété à elle, pèse effectivement sur elle. Constat qu'elle attribuera au fait d'être femme, comme Camille Claudel, Marie Laurencin, etc. Je cite, « La postérité n'est guère l'affaire des femmes. Se souviendra-t-on que j'ai été la première femme à exposer au Salon des Indépendants ?» À cela, Suzanne Valadon laisse un tableau, la chambre bleue, aux générations futures. La femme peinte allongée dans un divan aux draperies bleues est sa révolution. Elle l'a peinte à la manière de l'Olympia de Manet, mais c'est en fait une femme plutôt enveloppée, cigarette aux lèvres, vêtue d'un pantalon à rayures comme portent les hommes chez eux, et d'un débardeur plutôt masculin aussi que l'on contemple. Je cite « La femme que j'ai représentée dans ce tableau n'a pas besoin de dévêtir l'un de ses seins pour en être l'étendard, ni de hurler sa révolte, encore moins de porter un bonnet phrygien. Elle est à sa place, qui lui est due. Son combat est derrière elle, gagné depuis longtemps. » Utrillo, mon fils, mon désastre, est un roman inspiré de faits réels, animé tel un scénario, une image d'une Suzanne Valadon moderne, loin des conventions, pourvue de vivre de son art. Je vous rappelle donc ce livre à lire, Utrillo, mon fils, mon désastre, selon Suzanne Valadon, écrit par Corinne Samama, aux éditions Atelier Henri Dougier, collection Le roman d'un chef-d'œuvre, pardon.
Et alors après, on va aller se promener dans l'atelier de Suzanne ?
Voilà, cela donne envie d'aller revisiter d'ailleurs son atelier. Aujourd'hui, le musée Montmartre, au 14 rue Cortot. Nous nous y sommes promenés et avons profité des changements de collection notoires réalisés qui mettent en valeur le passage de ce site. Revisiter son atelier dans ce charmant petit pavillon blanc avec sa large verrière derrière les vignes dominant Paris et son petit minimum d'artistes de l'époque, le divan, le paravent, le poêle, le bureau et le portrait de Maurice Dutrieux guettant votre entrée, sa modeste demeure colorée de ses dessins et toiles. Tout cela donne envie de s'en imprégner davantage, aussi en ai-je profité pour découvrir le catalogue de l'exposition itinérante. Rétrospective de son œuvre, la première depuis 50 ans, publiée par les musées nationaux. Le livre s'intitule « Suzanne Valadon, un monde à soi » sous la direction de Chiara Parisi aux éditions du Centre Pompidou-Metz. Et ce catalogue présente une étude précise de tous les artistes interférents dans ces quartiers de Montmartre de l'époque, créant un très riche milieu culturel et politique dont l'implication d'une personne comme Louise Michel, révolutionnaire de l'époque. Jusqu'à la fin du Xe siècle, ce quartier sera le symbole géographique de la lutte contre le pouvoir et le militantisme, pour les droits des travailleurs jusqu'à l'égalité des sexes dans tous les domaines de la vie. Au salon d'automne de 1906, Roger Marx, critique d'art, revendiquera une arène plus démocratique d'exposants. On n'aura plus besoin d'être l'élève de quelques maîtres pour présenter ses œuvres. Ce qui ouvrira les portes à Suzanne Valadon, dont le passage de modèle à artiste ne fut pas accepté par tout le monde. C'est au chat noir évoqué par Francis dans une émission précédente que beaucoup d'acteurs, poètes et artistes mettront en avant ses idées politiques. Et c'est au même endroit que Suzanne Valadon rencontrera le père de Maurice Dutrieux. On ne connaît pas Suzanne Valadon de déclaration féministe. Elle est plutôt dans une trajectoire indépendante, car elle a cette arrogance interdite aux femmes de l'époque de présenter la nudité des hommes. Suzanne, ce nom lui fut donné par Toulouse-Lautrec, pour qui elle posait en référence à la Suzanne biblique observée par les vieillards. Suzanne, modèle puis artiste, sabote tous les stéréotypes de l'époque, assumant avoir été l'objet de regards masculins. Elle réinvente audacieusement la relation du peintre et de son modèle en inversant les rôles habituels et se mettant en scène, en choquant quelquefois d'ailleurs. Le tableau Adam et Ève en est l'exemple le plus saisissant. Elle s'y place nue, sa grande chevelure déployée au bras de son amant et futur époux de moins de 20 ans qu'elle. Et puis ces autoportraits qui visent toujours à exprimer sa personnalité sans aucune concession, qui se caractérisent par ce trait noir et qui cernent les figures. Je cite « Il faut avoir le courage de regarder le modèle en face. Si vous, on veut en atteindre l'âme. » L'affiche de l'exposition, comme la couverture du catalogue d'exposition, présente du reste un autoportrait d'elle au sein nu, datant de 1931 à l'âge de 66 ans. Son autorité matriarcale se ressent dans tous les portraits de famille avec sa mère et son fils. On sent bien qu'elle se pensait soutien de famille. Hectare de Gas a été un de ses premiers admirateurs et collectionneurs de ses œuvres. Pour ses gros traits si souples, ses cernes noires dures et fermes n'étonnera pas. Sinon qu'il lui enseigna aussi l'art de la gravure et de la pointe sèche, et qu'elle en produisit des merveilles. Dans les œuvres de Suzanne Valadon, il y a de nombreux dessins, gravures, mais aussi des pastels et des huiles. De nombreux tableaux de nus, dont la sensualité n'est pas du tout retenue, au contraire, très clairement évoquée, un exhibitionnisme volontairement excessif. Elle fera quelques portraits bourgeois qu'elle traitera de manière académique, qui suggère avant tout la position sociale. Janine Varnaud, disait de Suzanne Valadon, je cite, « Elle n'est pas jolie, elle est belle. » Hommage largement mérité. En attendant que l'exposition passe à Paris ou dans votre ville, je vous invite à aller la voir à Nantes ou de lire comme moi ce magnifique catalogue, écrit notamment par Chiara Parisi, Jean-Paul Delfino, Florence Saragossa, Gilles Gentil et d'autres. Donc, Suzanne Valadon, Un monde à soi, sous la direction de Chiara Parisi, édition du Centre Pompidou-Metz.
Donc Suzanne Valadon était un symbole, ça c'est clair, et symbole de Montmartre, symbole des femmes. Frédéric, si nous passions la rue Le Pic, symbole de Montmartre.
le pique. Dans le marché qui s'éveille dès le premier soleil, sur les fruits et les fleurs viennent danser les couleurs. Rue le pique. Voiture de quatre saisons offre tout à foison, tomates rouges, raisins verts, melons d'or et primes verts au public. Et les cris des marchands s'entremêlent en un chant, et le murmure des commères fait comme le bruit de la mer, rue le pic. Et ça grouille et ça vit dans cette vieille rue de Paris, et ça chante et ça pleure et ça bat comme un cœur, rue le pic. Rue le pic. Y'a du bon populo qui se vagonaude au hasard, et des petits rigolos qui viennent faire le lézard, rue le pique. Et les Jules qui ne font rien ou qui n'en font pas trop se reposent dès le matin aux terrasses des bistrots. Et là-bas, deux amants sans façon se promènent tout contents. Aux marchands de quatre saisons, ils achètent du printemps. Rue le pique. Sous les yeux amusés des badauds qui se trouvent là, ils échangent des baisers dans un bouquet de lilas. Rue le pique. Rue le pique. Il y a des cabots et des gosses à poulebeau aux frimousses vermeilles qui se prélassent au soleil. Mais surtout, il y a une belle fille aussi belle que l'été. Elle marchant en espadrille et rit en liberté, rue le pique. Et la rue est toute fière de son beau regard clair et de sa belle santé, elle qui l'a enfantée. Et toujours, la fille avec amour à sa rue dit bonjour, et la rue extasiée la regarde passer. Et la rue monte, monte toujours vers Montmartre là-haut, vers ses moulins si beaux, ses moulins tout là-haut, rue le Pic.
Eh oui, c'est vraiment Montmartre. Dans cette première partie, on ouvre le débat, sans rien refermer, première partie de l'émission, car il doit donner matière à réflexion. Et c'est Jeanne Lingard, une journaliste de Mediapart, habitant Aubervilliers, qui nous invite à la réflexion sur les Jeux Olympiques de Paris 2024. Alors, je vais vous présenter un petit peu cet ouvrage. C'est comme un rêve en introduction du livre de Jeanne. Paris 2024, une ville face à la violence olympique, publié aux éditions Divergence en 2023, fin 2023. Les JO sont les premiers de l'histoire moderne à rapporter de l'argent aux pays hôtes. Cet argent sert à créer des postes d'enseignants sportifs dans les quartiers populaires. Et tout est de la même veine. Réduction de la pollution, accessibilité des logements aux plus démunis, la vidéosurveillance est supprimée, le béton reverdi. Évidemment, ce ne sera pas la réalité. Et Jeanne Lingard souligne dans tout son livre les atteintes aux droits, à l'environnement, au logement, au travail, à la sécurité sur les chantiers, le gaspillage financier. Et pour qui a connu d'autres grands travaux de l'État, on a le sentiment que finalement, rien n'a changé et la puissance de l'État, alliée à celle du fric, écrase la vie sociale. J'ai envie de vous rappeler l'installation de Disney dans la plaine de la Brie à proximité de Paris, avec la complicité et les applaudissements des élus locaux. Je crois qu'il faut toujours souligner combien les élus locaux qui devraient défendre leur territoire sont les premiers à le laisser se massacrer. Car je souligne que lorsqu'on détruit des espaces, et notamment des espaces de culture, culture agricole bien sûr, eh bien on détruit irrémédiablement ces lieux. On ne pourra rien y refaire d'autre, c'est pas vrai, il faut arrêter de raconter du baratin. Et la plaine de la Brie, c'était des vraies plaines à production. À noter que le livre de Jeanne est à la mémoire de Damara Diumassi, mort sur un chantier en 2023. Et oui, il y a aussi tout le problème des accidents sur le chantier. Le lecteur pourrait s'attendre à une charge violente contre les JO. Le style est vif, certes, mais l'autrice veut livrer un récit d'élucidation devenu au fil de l'enquête une alerte contre les injustices que je voyais se dérouler sous mes yeux, hein, je la cite évidemment, dans une indifférence quasi générale. Et ouais, le problème c'est qu'on est là. Et elle s'appuie sur le cas des jardins ouvriers d'Aubervilliers, vous vous rappelez peut-être, détruits pour réaliser notamment un solarium avec la bénédiction des élus locaux, destruction annulée par le juge administratif, mais c'est trop tard. Ces JO peuvent-ils faire du bien à la population ? Ce fut le grand argument de vente qui produisit une grande illusion en Seine-Saint-Denis. Ce département si favorisé et si, en apparence, ah oui, si favorisé, pas du tout, si triste, si porteur malheureusement de problèmes sociaux aux portes de Paris, qu'est-ce qu'on pouvait faire, qu'est-ce qu'on devait faire ? Eh bien, Saint-Denis, la plaine Saint-Denis, Saint-Ouen, Aubervilliers, le quartier de la Porte de la Chapelle forment une péripolis, une continuité urbaine qui encercle la capitale parisienne sans en partager le capital économique ni le prestige. Et donc c'est dans ce quartier, dans ce secteur si défavorisé qu'on va concentrer des équipements sportifs sur une carte et c'est impressionnant. Aussi, comment déloger les populations ? Oh, le cynisme haussmannien est au rendez-vous. Où va-t-on les expulser ? Où va-t-on les loger, ces expulsés ? Il y a 1500 personnes quand même. Oh, désolé, ils ne sont pas expulsés, ils sont relogés. À quel prix ? Pour quel logement ? Dans des quartiers à problème ? Avec un parc social sursaturé dans le département ? À quelle distance de leur lieu de travail ? Haussmann, je vous dis. Vous lirez les pages, c'est assez éclairant la manière dont on traite et surtout le cynisme des technocrates, le cynisme des représentants des entreprises qui font du fric. On est là clairement dans cette optique. L'État s'occupe de tout. Il retourne même à Hidalgo qui était initialement peu favorable au projet avec des formules de publicitaires. Les jeux financent les jeux. Tout dépend de ce que vous mettez dans les jeux, finance les jeux. Qui paye les infrastructures sportives ? Les infrastructures routières et ferroviaires ? Les rapports officiels relèvent de l'intox, il n'y a même pas de contre-expertise. Même la Cour des comptes, qui pourtant n'est pas une institution révolutionnaire, n'est pas en mesure de se positionner et plutôt hésitante. À noter encore. Paris est la seule ville candidate. Ah, évidemment, quand il n'y a qu'une ville qui est candidate, là c'est facile. C'est peut-être d'ailleurs là où les Français arrivent à gagner. Tout le monde peut se souvenir des déficits retentissants des JO précédents. D'ailleurs, qu'est-ce qu'on a à gagner ? Heureusement, le plan com opère à fond et organise l'oubli. On est fasciné par le verbiage qui noie et méprise les habitants. Quelle concentration ! 10 500 sportifs, 50 000 volontaires, 25 000 journalistes. Et l'accès au jeu ? Entre 24 et 990 euros par place. Qui pourra se le payer ? Et puis, une fois cette frénésie passée, que deviennent les équipements ? Les quartiers artificiellement bâtis ? Le prix du mètre carré habitable est désormais de 7000 euros, ce qui exclut le retour des populations aux faibles ressources. Aussi, on connaîtra une gentrification de ce secteur de la Seine-Saint-Denis. C'est en route, c'est fait. L'immobilier progresse de 29% en 5 ans à Saint-Ouen, 22% à Aubervilliers. Qui peut se permettre d'habiter dans de tels secteurs ? Un nettoyage social qui se traduit par ces sas d'accueil en région pour les migrants. Vous savez, on évacue. On parle de placement et de rentabilité, mais on ne parle pas de coût social. Les équipements seront légués aux collectivités territoriales, payés par les contribuables et au coût de fonctionnement et d'entretien invérifiable. Va-t-on vers la même catastrophe que pour les villes nouvelles ? Écoutez, on verra bien. Et n'oublions pas non plus l'injustice environnementale. les jardins ouvriers d'Aubervilliers détruits, une emprise de 7 hectares amputant le parc de la Courneuve, 1,5 hectare de bois rasé à Élancourt dans les Yvelines, les roselières de verre Torcy en Seine-et-Marne saccagées, l'espace naturel ou semi-naturel d'Île-de-France, l'air, l'eau, la terre, qui constituent des communs si fragiles en région parisienne, aujourd'hui sont totalement ignorés par le pouvoir et par l'argent. Je vous invite vraiment à lire le livre de Jade Lingard, Paris 2024, une ville face à la violence olympique, édition Divergence 2023. Marie, tu viens de nous arriver.
Oui.
Je dois dire que nous avons 5 minutes pour présenter le livre,
eh
puisqu'après,
bien, ce sera suffisant.
Ça ira, parfait. Vas-y, vas-y.
Alors, donc, j'embraye. À l'heure où le GIEC prévient et surtout alerte des conséquences imminentes et irréversibles du changement climatique sur la planète, certains journalistes, comme Hugo Clément, qui est notamment connu à travers son émission Sur le front diffusée sur France Télévisions, mettent leur militantisme au service du bien commun afin d'informer notre société sur l'impact environnemental de l'empreinte humaine qui joue un rôle fondamental dans l'évolution des écosystèmes terrestres et marins. C'est le message, enfin l'un des messages relayés par cette bande dessinée que je vous présente aujourd'hui. Donc le théorème du vaquita. Donc en fait le rôle, enfin qui relaye, non, l'un des messages, pardon. Donc le rôle déterminant de l'homme qui aura une conséquence finale sur l'évolution du réchauffement climatique dans les décennies à venir. Cette bande dessinée n'a pas pour ambition de faire une projection dystopique et fataliste quant à l'avenir de la planète et donc des espèces humaines. Elle nous amène en revanche à nous questionner sur notre rapport au vivant dans sa globalité ainsi que sur le fonctionnement de notre société actuelle d'un point de vue écologique. À travers ces pages, Hugo Clément se met en scène pour narrer son parcours journalistique et les expériences aussi passionnantes que variées qu'il a vécues dans plusieurs coins du globe à la rencontre de divers animaux, tels que le vaquita, ce marsouin du Pacifique.
Ah oui, c'est ça.
C'est un tout petit marsouin. Enfin, c'est une espèce de marsouin qui vit dans le Pacifique et qui est menacée, donc entre autres par la surpêche. Et donc c'est une victime en fait collatérale hein, parce que la surpêche d'un autre animal qui s'appelle le totoaba, qui est pêché. Pour récupérer en fait sa vessie qui aurait des vertus plus ou moins
aphrodisiaques.
Aphrodisiaques, et puis sur la longévité. Mmh. Donc ça c'est très courant en Asie. Mmh. Et donc c'est à cause de cette surpêche donc de cette espèce le totoaba que le vaquita est menacé car il se prend dans les filets en fait des pêcheurs comme il est tout petit et il y a un massacre terrible de cette espèce chaque année. Donc en fait à l'heure actuelle l'organisation l'ONG Sea Shepherd a dénombré à peu près une quinzaine de vaquitas qui restent en tout. Donc c'est vraiment très peu alors qu'il y en avait encore des centaines il y a quelques années. Alors d'ailleurs le dessin qui figure en première de couverture de l'ouvrage, je voulais quand même en parler parce qu'il représente un amoncellement déshumanisé de cadavres d'animaux marins allant de petits poissons aux grands cétacés avec une pancarte sur laquelle figure « mort pour rien ». Donc c'est un dessin très percutant et représentatif d'une situation dont de nombreux scientifiques et lanceurs d'alerte ont déjà fait état sans pour autant trouver suffisamment de bons entendeurs capables d'y remédier durablement. Hein. Donc c'est le massacre de la faune aquatique qui chaque année cumule un nombre incalculable de victimes, des victimes donc voilà comme je l'ai dit de la surpêche, mais également donc de la destruction progressive de leur habitat hein, par la pollution des océans et des mers, et puis également le réchauffement climatique avec la fonte des glaciers mettant en péril déjà un grand nombre d'espèces. Et Hugo Clément en fait met en avant à travers ses pages de manière très très perspicace la souffrance animale qu'il a vécu, dont il a été témoin, et qui est lié à cette surproduction de viande. Par exemple, hein, il était dans des abattoirs de porcs, et en fait, il a bien vu que cette consommation de viande constante est loin en fait d'être pour l'homme l'unique option alimentaire dont sa survie dépend, contrairement à certains animaux carnivores qui n'ont pas le choix en fait que de se placer en haut de cette chaîne alimentaire qui régit les lois de la nature finalement. Donc le constat est simple, un être humain en bonne santé n'est pas celui qui mange quotidiennement de la viande, c'est pas un appel au véganisme hein, mais plutôt à une alimentation raisonnée à grande échelle. Et puis les pages de cette bande dessinée nous font également réfléchir de manière générale au rapport de l'espèce humaine, donc à la planète, enfin le rapport au vivant, et si l'homme veut perdurer sur Terre tout en continuant à cohabiter avec les espèces animales, il doit prendre son destin en main tout en cherchant des alternatives durables et respectueuses de l'environnement pour s'alimenter, se loger, se soigner, consommer de manière générale. Et d'ailleurs, une citation de l'écrivain tchèque Milan Kundera, donc figure en guise d'accroche de cette bande dessinée. Et donc c'est le véritable test moral de l'humanité, ce sont les relations avec ceux qui sont à sa merci, les animaux. Donc comment en fait l'homme peut cohabiter avec l'animal, comment résoudre en fait le problème de cette souffrance animale constante.
Oui.
Voilà, donc c'est l'un des messages relayés par cette bande dessinée. Et puis bah, en fait, qu'est-ce qu'on va laisser aux générations futures? Il y a toute une réflexion là-dessus, et assez philosophique, assez existentielle. Voilà, qu'est-ce que l'homme va devenir dans les années qui suivent, et comment il va faire en fait, quelles sont les alternatives et les solutions qu'il peut trouver
pour... Et en relation avec les animaux.
Voilà, alors, c'est toujours
c'est
les
livre,
animaux.
C'est un livre, le théorème oui. de...
Le théorème du vaquita. Donc par Hugo Clément, en collaboration avec Vincent Ravalec et Dominique Mermoux, paru aux éditions Fayard, collection Fayard Graphique, en septembre 2023.
D'accord, voilà. Très bien. Merci. Et nous arrivons au deuxième temps de l'émission, la deuxième demi-heure, et nous avons en direct Marie-Hélène Bellac pour la biographie de Louise Michel qu'elle a publiée récemment aux éditions Perrin. Marie-Hélène Bellac, est-ce que vous êtes bien en ligne ?
Oui, je suis là, bonjour.
Bonjour Marie-Hélène Bellac. Alors, je trouve que ça tombe, si je puis dire, très bien, parce que nous avons une de nos présentatrices qui a présenté un livre sur les animaux, sur la souffrance animale, la nature.
Ah, oui.
Et alors, le lien avec Louise Michel, c'est pur et parfait, si je puis dire.
Oui, il est évident, puisque Louise était très attachée aux animaux d'abord, hein. Elle aimait les animaux, il faut dire que dans sa jeunesse, elle a passé sa jeunesse au château de Roncourt, donc c'était vraiment la campagne, il y avait 120 habitants, et elle raconte même que son grand-père avait cassé la paroi entre sa chambre et l'écurie pour être plus près de son cheval préféré. Et en plus, toute sa vie, elle a adoré les animaux, notamment les chats. Elle avait des chats, même quand elle est partie en Nouvelle-Calédonie, elle a rapporté des chats.
Même rapporté des chats de Nouvelle-Calédonie, dont certains étaient malades.
Voilà, des chats qui étaient avec les dents pointues, disaient ses ennemis, qui étaient semblables à elle. Et au-delà de ça, quand elle était aussi, j'y pense tout d'un coup, en exil à Londres, elle s'était exilée volontairement, elle envoyait des lettres à la personne qui gardait ses chats pour avoir des comptes rendus très détaillés de leur comportement. Et d'ailleurs, il y avait des amis qui disaient, il faut ne vous faites pas d'illusions, Louise nous aime, mais elle aime encore plus ses chats. Ouais. Et alors, c'est vrai que pour elle... Elle a été très révoltée dans son enfance quand elle a vu qu'on faisait souffrir les animaux. Elle dit que c'est d'ailleurs comme ça que lui est venu du même coup l'intérêt pour les pauvres, pour une certaine commisération à l'égard de tous les défavorisés.
Des faibles.
Et elle a d'ailleurs lutté contre la tauromachie, par exemple.
Oui.
Elle a essayé de faire interdire, elle n'a pas réussi, mais des corridas. Et puis aussi, quand elle est à Londres en 1890, elle a participé à un congrès végétarien. Congrès végétarien mondial qui se tenait à Londres. Vous voyez ?
Oui.
Donc, ça va au-delà de l'amour pour les animaux. C'est vrai que c'est un intérêt pour l'animal et pour sa condition.
Je crois d'ailleurs, dans ses mémoires, elle parle aussi des souffrances que font subir les enfants aux grenouilles. hein, il y avait l'histoire des grenouilles.
Oui.
Qu'est-ce qui vous a porté vers Louise Michel? Parce que, bon, vous êtes agrégé d'histoire, vous avez consacré plusieurs ouvrages à la période révolutionnaire et au 19e siècle, et notamment vous avez écrit La peur du peuple, l'histoire de la Deuxième République, 48-52, 1800 bien sûr.
Oui, et, qui ressort en poche d'ailleurs prochainement.
Ah, très bien, très bonne nouvelle.
À la fin du mois.
toujours chez Perrin?
Oui, toujours, oui, la collection Tempus.
D'accord, ah oui, Tempus. Alors, qu'est-ce qui vous a porté vers Louise Michel?
Alors, je vais vous dire, c'est vrai que je m'intéresse, disons, à toute cette époque de révolution, enfin, du passage de la monarchie absolue à la République qui s'est fait à travers Jérémy le soubresaut. Et ce qui m'a beaucoup intéressée, notamment quand j'ai travaillé sur la Deuxième République, c'est l'émergence de la question sociale comme... clivage majeur dans la vie politique française entre la droite et la gauche. Mmh. Et c'est vrai que Louise Michel s'inscrit dans ce clivage qui se met en place progressivement. Et alors, en plus, c'est une période où les socialismes sont encore, comme je crois que c'est Madeleine Rébériou qui a dit, dans leur enfance. Donc on a une multitude de mouvements et elle participe à ce grand mouvement, en fait, avec surtout la naissance de l'anarchisme. Parce qu'elle est l'égérie de l'anarchisme.
Alors, elle est blanquiste à un certain moment donné de l'histoire,
oui.
Notamment avant la Commune, au moment de la Commune, et c'est après qu'elle deviendra anarchiste. Autrement dit, c'est vraiment les socialismes que vous évoquez bien. Elle n'est pas... Voilà, c'est bon. Et alors, on a l'impression d'avoir tout lu sur elle, quand même. Or, vous mettez en valeur de nouvelles informations. Elle est notamment assez méconnue quant à sa vie personnelle.
Oui, parce qu'en fait, il y a eu effectivement beaucoup d'ouvrages sur elle, beaucoup d'ouvrages qui ont été écrits par des gens qui étaient engagés politiquement à gauche, hein, notamment au début par des gens qui venaient du Parti communiste. Et donc, du coup, ce qui intéressait ces gens, c'était surtout ses idées.
Oui.
Et pas de faire la jonction entre les idées et la vie, qui sont pourtant, comme elle dit, ma pensée c'est ma vie, elle dit
oui.
Après, parce que c'est une femme qui est engagée complètement, et du coup, d'ailleurs, elle ne vit que pour son idéal.
Je crois qu'elle le dit d'ailleurs, que c'est la révolution, son idéal.
Oui, c'est la révolution, oui, elle estime qu'elle est un projectile lancé... je dirais même dans la nature, hein, pour la révolution.
Et puis elle a des passions, elle est tout sauf tranquille, hein. Ses écrits, c'est de la ça fuse, hein.
oui c'est une femme passionnée, ça c'est certain, que même si elle en a pas l'apparence, hein, parce que elle est un petit peu lourde comme une paysanne, d'ailleurs on dit qu'elle a la démarche d'une paysanne. Et puis, elle parle assez lentement, elle ne crie pas, contrairement à ce que certains croient. Elle dit des choses extrêmement violentes, mais d'une voix finalement assez douce.
Oui, ça, j'ai découvert ça, parce que, bon, je ne cache pas que j'aime bien Louise Michel, donc j'ai lu pas mal d'ouvrages sur elle et d'elle, mais je ne savais pas qu'elle avait... parce qu'effectivement, on l'imagine avec des grands gestes, un ton enflammé, enfin, quand on lit... elle, je ne pas dire qu'elle était fluette, mais d'où le... Donc, elle parlait d'une voix tranquille dans ses meetings.
Oui. Alors bon, elle faisait de temps en temps, elle accentuait un mot, elle faisait des gestes, mais c'était pas une oratrice puissante.
Oui.
Alors c'est vrai que quand on lit les textes, on se dit c'est du feu. Enfin, elle lance des injures, des appels à meurtre. Je pense notamment à Gambetta, qui était vraiment l'homme qu'elle haïssait. Et on n'a pas le sentiment que ça peut être fait comme ça aussi tranquillement qu'elle le fait.
On a aussi Thiers, hein, qu'elle voulait aller tuer à Versailles.
Oui, à Versailles. Et alors elle, comme ses amis l'ont déconseillé, en disant de toute façon elle ne pourrait pas, elle s'est habillée en bourgeoise pour pouvoir passer facilement les lignes, hein, puisque c'était pendant l'époque où Paris
c'était au début de la Commune.
De la Commune. Elle y a été, elle a acheté le journal du jour pour pouvoir prouver, le journal de Versailles, pour pouvoir prouver à ses amis qu'elle y avait été. Elle est revenue.
Oui.
Donc,
mais elle ne l'a pas tué. Elle ne l'a pas tué, alors que je crois qu'elle était à côté de lui. Hein.
Elle n'est jamais passée à l'acte. Ça aussi, c'est une interrogation.
Elle a peut-être fait le coup de feu quand même à Issy-les-Moulineaux, sur le front.
Elle a fait le coup de feu. Elle dit même elle dit même qu'elle aime l'odeur de la poudre. Elle a fait le coup de feu pendant la Commune, essentiellement, un peu avant, après la proclamation de la République déjà, mais surtout pendant la Commune, où là, elle était aux côtés du 61e régiment, au fort d'Issy, notamment. Elle s'est beaucoup battue au fort d'Issy, et puis ensuite, elle a été à Montmartre, effectivement, pendant la Commune, elle s'est battue, notamment dans le cimetière de Montmartre. Et c'était une des rares femmes qui donnait le coup de feu, parce qu'en principe, les femmes n'avaient pas le droit.
Oui, c'était cantinière, infirmière.
Voilà, cantinière, infirmière. Et elle, elle voulait bien aussi faire ça, mais elle voulait surtout se battre. Elle s'est battue.
Oui. Et quand on revient à sa jeunesse, est-ce que vous pouvez nous éclairer sur l'éducation qu'elle reçoit ? Ce qui est quand même assez original comme éducation pour l'époque.
Oui. Oui. Alors, il faut peut-être d'abord rappeler qu'elle est la fille d'une servante et du châtelain, ou du fils du châtelain, plus probablement, à mon avis d'ailleurs, du châtelain. Et contrairement à ce qui se passait d'habitude, on n'a pas mis... La femme de chambre, qui était d'ailleurs c'était à un endroit où il y avait très peu de personnel, c'était quelqu'un qui vivait au sein de la maison, je dirais, et elle n'a pas été mise à la porte, et puis c'est ce qu'on faisait, on mettait à la porte la fille fautive avec son enfant. Là, non, elle est restée au château, et la petite fille a été élevée par ce qu'elle appelait son grand-père et sa grand-mère. Donc le grand-père étant peut-être en réalité le père. Et comme c'était des gens de ce qu'on appelle la noblesse de robe. Vous savez, la noblesse de robe, ce sont ces gens qui sont anoblis par l'exercice d'une charge dans la magistrature au XVIIIe siècle. Donc ces gens-là, les Desmaïs, avaient été dans la magistrature parisienne sur trois générations déjà. Et puis, c'était des gens éclairés. On est au siècle des Lumières, ils lisaient... Voltaire, Rousseau, les encyclopédistes, ils étaient plutôt d'ailleurs comme d'autres favorables à une révolution, en tout cas une réforme.
Oui, il n'était pas, notamment le grand-père n'était pas un grand passionné de la religion chrétienne.
Hein? Non, pas du tout.
Quand on lit.
Oui, pratiquement athée, puisqu'elle s'est demandé ce qu'il fallait faire ou pas faire. Bon. Donc c'était l'esprit des Lumières de ce deuxième 18e siècle. Qui touchait aussi une partie de la noblesse, il ne faut pas l'oublier. Et quand la violence révolutionnaire la révolution est devenue vraiment très violente, ils ont fui en province, et à ce moment-là d'ailleurs ils n'étaient plus les deux maïs, mais ils ont rattaché la particule de maïs, et ils vivent donc à Broncourt dans ce château qui est déjà assez délabré, qui est un bien national qu'ils ont racheté. Ils mènent une vie assez simple, il faut bien le dire, mais ils s'entourent de quelques amis choisis et on lit beaucoup, on parle, on fait de la musique. Et donc, Louise va recevoir ce qu'on peut dire une éducation de qualité. D'ailleurs, on dit qu'elle est la demoiselle du château. Les gens du village disent au entier la demoiselle du château. C'est-à-dire que sa grand-mère lui apprend à écrire, enfin d'abord à lire, puis très tôt, toute petite, puis à écrire. On l'envoie à l'école du village. On l'autorise à apprendre dans la bibliothèque de son grand-père, qui était donc extrêmement fourni à peu près tout. Ce grand-père, d'ailleurs, lui raconte l'histoire de France. Donc, intellectuellement, elle acquiert un bagage important. Et comme c'est une petite fille, une adolescente curieuse, elle plonge là-dedans avec délice.
C'est une
Met à versifier.
Oui, c'est vrai, elle versifie, oui. Et en vous lisant, on découvre une jeune fille libre dans son environnement. Elle va partout, quoi. Elle n'est pas enfermée dans le château. Est-ce que ça va peser sur son féminisme, ça ?
Oui, alors effectivement, comme c'est la campagne et que ses parents sont très libéraux, enfin le grand-père et la grand-mère, elle a aussi une éducation au grand air où elle fréquente aussi les paysans, elle apprend les légendes locales. Et c'est sûr que ça jouer sur son féminisme, parce qu'elle raconte à un moment qu'il y a un certain nombre de prétendants qui se sont présentés au château et que son grand-père et sa grand-mère n'ont jamais voulu la promettre à qui que ce soit.
Mais elle même refuse le mariage, si je me souviens bien.
Elle a refusé, oui. Alors elle refuse. Alors, je ne crois pas qu'au début, elle soit contre le mariage. Absolument, elle est contre le mariage tel qu'on le pratique souvent à l'époque.
Oui.
Elle dit qu'il ne faut pas que la femme soit le potage de l'homme.
C'est sa formule.
Hein. Voilà, c'est la formule. Mmh. En fait, après tout, si c'est un mariage consenti avec quelqu'un qu'on aime, elle est au début pas contre. Après, ça va être, je dirais, les aléas de la vie qui vont faire qu'elle se marie pas. Mais oui. Et puis elle devient contre le mariage. Mais je vous dis, c'est plus à mon avis contre le mariage tel qu'il est pratiqué dans l'immense majorité des cas à l'époque, contre le mariage en tant que tel, je crois.
Oui, et un autre aspect un peu oublié ou occulté, elle est croyante et jeune, alors que son grand-père, lui, est voltairien. On pourrait dire qu'il y a une forme de christianisme social à la Lamennais. On le ressent d'ailleurs dans certaines poésies.
Oui. Il y a des poésies chrétiennes qui ont d'ailleurs été publiées de son vivant. Alors, c'est vrai que, bon, elle a été élevée à l'époque, même dans les écoles où il y avait pas, qu'ils n'étaient pas tenus par les religieux, il y avait quand même une fois par semaine catéchisme. Hein. Oui. Et puis, elle raconte qu'elle avait une tante qui avait été novice un moment à l'hospice de Langres et qui s'est beaucoup occupée de l'éducation religieuse des enfants de la famille. Donc, elle allait aux vêpres, elle était encouragée, je dirais, dans les exercices de foi. Et comme c'était une petite fille très exaltée, hein, elle a toujours été exaltée, très sensible, là, à fleur de peau, c'est vrai qu'elle elle était, je dirais, c'est normal qu'elle ait, elle ait adhéré à la religion pour essayer de trouver une réponse aussi à ses inquiétudes. Et elle a lu, elle raconte que c'est justement son grand-père qui était pourtant voltairien qui lui a mis entre les mains Parole d'un croyant de Lamennais. Oui. C'est vrai que cet ouvrage de Félicier de Lamennais qui est paru en 1834 a été un best-seller. Mmh. Et alors Lamennais n'est pas révolutionnaire, mais Lamennais promet un monde nouveau, l'avènement en fait d'un règne de justice, de liberté. Il dit que Dieu n'a pas fait de petits, de grands, qu'il n'a pas fait de maîtres et d'esclaves, ni de rois et de sujets, et que donc ce règne un jour va être établi. Alors il propose pas une méthode révolutionnaire, mais il propose de changer le monde. Et en fait, c'est ce qu'elle veut. Après, elle va aller du côté de la méthode révolutionnaire, mais dans un premier temps, elle n'est pas jusque là, parce que dans ses mémoires, elle a tendance à dire qu'elle était communiste à 4 ans. Hein.
Oui.
Alors qu'en fait, bon. C'est une évolution.
Oui, hein,
elle est passée quand elle a vu que l'Église est souvent du côté des puissants, du pouvoir. Elle a pensé que c'était elle a rompu. Hein. C'est plus. Mais elle a gardé un fond de foi, hein, de mysticisme.
Oui, hein, quand on lit certains de ses textes, oui, tout à fait, on les retrouve, on le retrouve. Alors, avançons, bon, on ne va pas parler de sa relation avec Victor Hugo, c'est extrêmement connu ça, mais qu'est-ce qui l'incite à devenir institutrice et surtout libre? Pourquoi parle-t-on d'institutrice libre à cette époque?
Oui, alors d'abord on parle d'institutrice libre comme on parle de l'école libre, ça veut dire que c'est des écoles qui ne sont pas tenues par l'État et qui peuvent être tenues par des partis particuliers et donc y compris par des particuliers laïcs,
c'est
pas forcément des religieux. Mmh. Hein. Donc on a l'école de l'État, puisqu'il y a eu la loi Guizot, on a donc des écoles, hein, et même à Avroncourt, alors qu'on n'avait pas le seuil obligatoire pour avoir une école, il y avait une école. L'école libre, c'est une école qui est créée par un particulier, et ce particulier peut être un laïc. Alors, comment elle est devenue institutrice, pour répondre à votre première question? En fait, elle voulait être poète. Voilà. Elle voulait être poète. C'est pour ça d'ailleurs qu'elle a eu très tôt elle a écrit à Victor Hugo. Et puis, d'ailleurs, il y a un recensement de Roncourt, où elle a 20 ans, c'est le dernier recensement est présent à Roncourt, elle est notée dans le recensement comme poète, hein, dans les états du lieu. Et puis, poète, ça ne permet pas de manger. Or, son grand-père et sa grand-mère sont morts coup sur coup en 1845-1850, et là, elle a été renvoyée à sa condition de bâtarde, hein, c'est-à-dire que bon, ils lui ont bien légué quelques terres, mais comme elle était jeune, elle était sous tutelle, donc elle ne pouvait pas en disposer. Il fallait qu'elle gagne sa vie, puisqu'elle ne s'était pas mariée. Poète, ça ne permettait pas de manger. Sa mère aurait bien voulu qu'elle soit cuisinière, parce que c'est ce qui gagnait bien mieux qu'une institutrice. Mais finalement, institutrice, c'était ce qui était le plus près, je dirais, de son désir intellectuel. Mmh. Puisqu'elle avait un savoir qui lui permettait de passer les examens, parce que même si on tenait une école libre, il fallait passer les examens de l'État.
Hein. Oui, bien sûr. Alors, elle aura des relations un petit peu compliquées en Haute-Marne, puisqu'elle est, elle essaye d'être libre là aussi,
oui.
Et donc les relations avec les pouvoirs publics sont un peu compliquées. Oui. Elle monte à Paris, comme on dit, et elle s'investit dans la pédagogie, l'école des pauvres à Montmartre. Vous vous rappelez d'ailleurs que plusieurs écoles aujourd'hui portent son nom.
Et son nom.
Quelle était la conception pédagogique innovante qu'elle mettait en avant pour l'époque toujours?
Alors, en fait, elle veut pratiquer ce qu'elle appelle d'ailleurs elle-même une éducation intégrale. C'est-à-dire qu'il faut éduquer à la fois l'esprit et le corps de l'enfant. Et puis, il faut que cette éducation soit active, concrète. En fait, on est très proche de méthodes, je dirais, encore modernes aujourd'hui. Hein.
Oui.
Cette idée-là, elle ne l'a pas inventée toute seule. Hein. On est dans l'époque, donc... de ce que Marx a appelé les socialismes utopiques, et des gens comme Fourier et comme Proudhon ont beaucoup réfléchi et écrit sur ce que devait être l'éducation, parce que l'éducation, c'est la formation du futur citoyen. Hein. Donc, si on veut former des travailleurs libres, civilisés, capables d'exercer leur jugement, y compris dans le vote, bon, c'est pas le cas de Louise, mais ça l'est le cas d'autres, il faut que les enfants soient formés. Donc, elle exerce... elle a une école de filles, hein, d'ailleurs elle est d'abord sous maîtresse, etc. Et elle pratique un enseignement très actif. Elle fait monter des petites pièces de théâtre à ses élèves. Pour leur expliquer un peu la nature à Paris, elle a fait un petit jardin de mouches où elle a une tortue.
Mais je crois aussi qu'elle a une couleuvre.
Oui, voilà, les couleurs, aussi. De toute façon, ça
ne
la gêne pas.
Non, ça, c'est la vie à la campagne, hein. Elle a bien connu ça, tout à fait.
Complètement, elle essaye de leur montrer, elle les fait chanter, elle essaye, c'est l'éducation, enfin, vous savez, j'enseigne longtemps à l'école alsacienne, je ne dirais pas que c'est l'éducation de l'école alsacienne, mais c'est quand même cet esprit-là, c'est pour ça que moi, je me suis retrouvée dedans. C'est l'idée de prendre l'enfant dans son intégralité, et d'essayer d'en faire que lui-même réussisse à devenir le meilleur possible par rapport à ce qu'il est, par rapport à ce qu'il ambitionne.
Et c'est d'ailleurs Proudhon qui reprend, qui avait développé l'idée de combiner le travail intellectuel et manuel, et qu'on va retrouver dans la commission éducation d'Edouard Vaillant, qui était d'ailleurs un blanquiste comme Louise.
Oui,
et elle se mobilisera pour l'éducation pendant la Commune, avec personnes comme Marguerite Tiner, etc.
Oui.
Il y a donc un travail là qu'elle mène. Et,
d'ailleurs, hein, elle a commencé à écrire des livres, hein, elle a écrit plusieurs morceaux, parce qu'elle écrit beaucoup et tout n'a pas été publié, et puis tout n'est pas forcément facile à publier parce que c'est très, parfois très désordonné les feuillets, mais effectivement, elle s'est beaucoup investie dans la façon d'apprendre aux enfants, pour parler à leur âge, vous voyez, de pas leur proposer des choses abstraites, mais au contraire très concrètes,
et
de leur faire comprendre l'organisation du monde. Non, elle a été très loin dans sa réflexion. De toute façon, elle a jamais, je dirais, abandonné cette vocation d'instituteuse, parce que c'est devenu finalement une vocation, hein, et je dirais même une espèce de sacerdoce. Pour elle, c'était très important, puisque quand elle a été en Nouvelle-Calédonie déportée, elle a ouvert une école, qu'elle a donné des cours le soir au Kanak. Quand elle était à Londres, après en 1890, qu'elle est partie à Londres, elle a essayé d'ouvrir un institut aussi d'enseignement de très haut niveau, de très très haut niveau d'ailleurs. Mm-hmm. Donc c'est quelque chose qui a parcouru, je dirais, toute sa vie.
Oui, et elle a aussi... Alors, il y a un autre aspect qui m'a beaucoup intéressé dans votre livre, c'est la relation avec sa mère. Elle a une relation tout à fait étonnante, c'est-à-dire que elle est au front, elle se bat, elle fait le coup de feu à Issy, à la gare de Clamart, et puis, elle se livre aux Versaillais pour libérer sa mère, elle a une relation fusionnelle avec Marianne, sa mère.
Oui.
Pourquoi à ce point, on a l'impression qu'il y a deux Louises, l'enfant, la combattante.
D'ailleurs, les journalistes le disent. Hein. Ils disent, une fois, je me souviens d'un journaliste qui va la voir, elle est donc avec sa mère toujours, et il dit, on aurait dit une petite fille avec sa mère. Oui, c'est très curieux, parce qu'en fait, bon, je pense que la mort de ses grands-parents, de la tante, dans la famille, il y a plusieurs personnes qui sont mortes, elle s'est retrouvée un peu avec un vide du côté, je dirais, paternel, et donc, elle n'avait plus que sa mère et la famille de sa mère, et elle s'est sentie responsable de cette mère. Et ce qui étonnant, c'est que ces deux femmes ne se sont jamais comprises. Mais alors, jamais. Pour Marianne, Louise s'était dévoyée, on l'a volée, on l'a entraînée en politique à faire n'importe quoi. Et d'ailleurs, quand elle était en prison, à plusieurs reprises, Louise a tout fait pour que sa mère ne le sache pas.
Oui, c'était notamment quand... Oui, je crois.
Aménagée,
oui. Oui, notamment quand elle était à Saint-Lazare, ou qui était en même temps la prison des prostituées. Bon, elle voulait pas trop que sa mère le sache, quoi.
Oui, voilà. Oui. Et puis, enfin, c'est ce qu'il y a aussi une chose qu'on peut dire qui est absolument extraordinaire, c'est quand elle était à la centrale de Clermont, où là, c'était quand même
plus dur. Loin
et dur. Le ministre l'a autorisé à ce qu'elle sorte de la prison à plusieurs reprises pour aller s'occuper de sa mère.
Oui.
Est-ce
qu'on y voit quand même l'intervention de Victor Hugo et de Clémenceau ?
Oh, pas toujours. Hein.
Pas toujours.
Mais Clémenceau l'a fait.
Oui.
Mais c'est vrai qu'ils sont intervenus, mais quand même. Mmh. D'ailleurs, il y a des gens qui ont dit, mais qu'est-ce que c'est que cette prison à l'air libre ou comme ça, on la sort parce qu'elle a été sortie 6 ou 7 fois. Hein. Et puis, elle a passé, quand sa mère était agonisante, elle a passé... les derniers jours auprès de sa mère. C'était un régime, il y a qu'elle qui a eu ce régime. Ce qui montre d'ailleurs au passage, excusez-moi, l'importance qu'elle avait. Je crois que les gens ne se rendent pas assez compte qu'elle a été un personnage politique important.
Oui, mais est-ce qu'elle s'est construit son image, notamment au moment de son procès, notamment, mais tout le temps, en
fait. Non, mais c'est vrai qu'elle elle a sans doute appris à construire son image. Enfin, au moment de son procès, je pense qu'elle était très sincère, même si parce qu'elle s'est présentée avec ce voile noir qu'elle avait pris après l'exécution du journaliste Victor Noir par le cousin de par Pierre Bonaparte, de l'empereur, oui. Mais donc elle avait un côté théâtral, et puis surtout la façon dont elle s'est défendue. Elle s'est pas défendue. Elle a dit tuez-moi.
Oui, bon. Si vous n'êtes pas des lâches, tuez-moi.
Voilà.
Alors qu'il y avait un certain nombre d'hommes qui essayaient de cacher leur responsabilité de la commune.
Bien sûr. Donc, c'est vrai, mais elle a construit, mais je vous dis, finalement, moi, c'est ça aussi qui m'a fascinée. Elle n'est jamais passée à l'acte. Et c'est pour ça que je pense qu'il y a ce côté quand même chrétien, entre guillemets, qui reste au fond de sa personnalité. Parce que elle appelle à la violence, et en même temps, c'est une femme qui peut être très douce. Qui s'occupe de tous les misérables. Vous voyez, là aussi, il y a deux Louises. Il y a la Louise très violente et puis la Louise la plus douce possible qui donne tout pour ceux qui n'ont rien.
Oui,
et pour sa famille qui l'a plus ou moins, d'ailleurs.
Oui. Elle s'occupe du sort des aliénés, on ne pourra pas en parler parce que le temps passe, elle est toujours du côté des pauvres, elle le dit d'ailleurs. Une femme qui aime les chats ne peut pas être violente. Certains doutent de sa santé mentale, en tout cas veulent la faire passer pour folle. Hein. Bon.
Oui, alors ça dès le début, justement, dès son procès, il y en a qui disent c'est pas possible... revendiquer comme ça la mort, c'est qu'elle ne va pas bien. Donc, c'est un thème qui va revenir souvent, d'ailleurs, en disant bon, elle est folle, on ferait mieux de l'interner plutôt que de la mettre en prison. Et puis, jusqu'à cet épisode de 1890, où à la veille de la fête pour la première fois du 1er mai, la fête du travail, elle va en province à Vienne. L'Isère, participer à des réunions, surtout que c'était une région où il y avait beaucoup d'anarchistes.
Oui.
Et puis elle est arrêtée, emprisonnée, et on veut la libérer. Et comme d'habitude, elle ne veut pas qu'on la libère. Si on ne libère pas, c'est des autres, ses compagnons. Elle ne veut pas de régime de faveur. Et donc elle casse tout dans sa cellule. Mais alors elle casse tout. Et le directeur de la prison est prêt à la faire interner.
Là, elle a eu peur. Hein.
Pour elle, Là, elle a eu très peur. Et c'est pour ça qu'elle est partie s'installer à Londres.
Oui.
Alors, elle a eu très peur parce qu'elle disait à prison, finalement, je peux lire.
J'écris.
Je peux écrire, voilà. Hein. Mmh. Mais l'asile d'Aliénés, surtout elle, qu'elle connaissait, elle s'était renseignée justement beaucoup sur les fous, le traitement qu'ils subissaient. Elle avait dénoncé des méthodes violentes. Et donc, elle a eu très peur, effectivement.
Oui. Mmh. Et alors, on avance. Elle est oui. En 1904. Elle rentre en franc-maçonnerie. Ça aussi, c'est peu connu. Et elle a un discours intéressant sur les relations entre les femmes et les hommes. Et son féminisme était très innovant à cette époque en franc-maçonnerie, puisqu'il n'y avait pas encore de franc-maçonnerie. Oui. La Grande Loge Féminine de France n'existait pas. Je crois que c'est Madeleine Pelletier qui l'a fait rentrer.
Voilà, c'est ce que j'allais vous dire. C'est Madeleine Pelletier qui était un médecin qui a même été là. La première femme médecin diplômée en psychiatrie en France, qui était donc à la Grande Loge Symbolique écossaise, pratiquement en fait très peu de temps avant elle, hein, et qui a voulu justement, qui a pensé que en recrutant Louise, en lui proposant d'être initiée, c'était un moyen justement d'attirer les femmes, d'ouvrir aux femmes les portes des temples. Et donc, c'est vrai qu'elle a voulu utiliser cette notoriété de Louise pour faire admettre les femmes au Grand Orient qui étaient strictement masculins. Donc, il y a eu une tenue où Louise, à laquelle elle a participé, a fait un discours très intéressant. J'avais noté, elle dit notamment « Il n'y a point de différence d'hommes et de femmes, à chacun selon son œuvre. On s'est défié des femmes qui sont pourtant une grande force. Il n'y a pas la femme contre l'homme, il y a l'humanité. » C'est très intéressant, je vais vous dire pourquoi ça m'intéresse d'autant plus que j'ai trouvé sous la plume de George Sand quelques années avant, en fait, le même raisonnement. C'est-à-dire que c'est pas homme égale femme, ils sont complémentaires, ils sont égaux, mais il y a. C'est à chacun selon son œuvre.
C'est pas
bonnet blanc et blanc bonnet, si je puis
et
dire.
Et puis c'est pas une opposition des uns contre les autres.
Oui. Et en fait, ce qu'elle veut, évidemment, c'est que les garçons et les filles reçoivent la même éducation, que les femmes aient les mêmes droits civiques que les hommes, donc notamment dans le mariage, hein, et dans la propriété, le divorce, etc. Et puis, le même droit au travail. D'ailleurs, c'est ce que demandaient en 48, hein, les ouvrières à Paris. Par contre, la grosse différence entre Louise Michel et d'autres féministes, c'est qu'elle, évidemment, elle ne demande pas que les femmes votent, puisqu'elle est contre le vote.
Oui, elle est contre le pouvoir.
Enfin, par nature. Hein, elle est contre le pouvoir, elle est contre l'État. Donc, pour elle, le suffrage universel, c'est un leurre. Donc, si c'est un leurre pour les hommes, c'est aussi un leurre pour les femmes.
Oui, tout à fait. Et puis, bien, écoutez, elle meurt, nous le savons tous, à Marseille, en 1905. Elle est enterrée à Levallois. Elle n'est pas enterrée au Père-Lachaise, où elle peut être à côté de tous ses amis. Elle est près de sa mère, de Théophile et de Marie Ferré.
Voilà, de Théophile et de Marie Ferré. Théophile Ferré qui a été sans doute son seul grand amour. C'est pour ça, donc, effectivement, qu'elle a été enterrée. Enfin, elle est donc elle est morte à Marseille. Son corps a été ramené sur Paris. Et là, il y a eu... on dit qu'il y a eu à peu près 10 000 personnes qui se sont pressées entre
c'était une grande manifestation, à fait. Et alors, que nous laisse-t-elle en héritage, selon vous?
Alors, je dirais que, d'abord, c'est une grande figure de notre histoire. Comme je vous disais tout à l'heure, c'est quand même un personnage important, quand même. Elle a été suivie toute sa vie par la police, toute sa vie. Il y avait toujours deux policiers en bas de chez elle. Elle a toujours été, espionnée. Et elle est un témoignage, des difficultés à installer une république pacifiée. Elle en a un des plus importants témoignages. Alors, ensuite, elle reste évidemment l'égérie d'une partie de la gauche. Mais aujourd'hui, il y a les anarchistes, bien sûr, libertaires, mais pas seulement. Les féministes, même les milieux queer, aujourd'hui, s'en revendiquent. Elle a quand même, une famille très large. D'ailleurs, c'est aussi ce qui a fait sa force. C'est qu'elle, même si elle est anarchiste, elle a toujours voulu œuvrer pour l'unité de la gauche. Elle disait, au fond, tous ces gens-là se retrouveront à la fin.
Oui.
Et puis, pour moi, hein, je vais vous dire, au-delà des clivages politiques, je trouve que c'est quand même un modèle d'intégrité, de dévouement à une cause qui est assez exceptionnel.
Oui, tout à fait. Ouais. C'est vrai qu'elle a été dévouée tout le temps. Ouais.
Tout le temps. Ouais. Elle n'a jamais trahi sa cause. Bon, même si des fois, elle n'a pas pris parti, parce que, bon, pour des tas de raisons. Mais elle a toujours été... Elle a toujours mené sa ligne et elle n'a jamais sacrifié véritablement à la ligne qu'elle croyait. Mmh. Et ça, bon, c'est quand même un bel exemple.
C'est un bel exemple, elle n'a pas trahi. Oui, oui. Eh bien, Marie-Hélène Bellac, merci pour cet échange sur la personnalité de Louise. Je crois que nous n'avons pas tout dit, mais il nous reste ses mémoires et puis votre livre, Louise Michel, de Marie-Hélène Bellac, publié chez Perrin en 2024. Et je crois qu'on va vous retrouver dans une autre émission sur Radio Libertaire prochainement. Oui. C'est ça? Très bien.
Oui, dans 15 jours ou 3 semaines, oui.
D'accord. Bon, oui. Parfait. Merci. Est-ce que nous avons un autre ouvrage en perspective? Vous êtes en train de travailler?
Écoutez, alors, donc, comme je vous disais, j'ai La peur du peuple qui sort en temps puce. Et puis, j'ai un autre ouvrage en perspective, mais seulement pour 2000, je pense qu'il sortira, je rendrai 2025, qui sortira en 2026. C'est dans la Bibliothèque des Illustres, qui est une coproduction Perrin et de la Bibliothèque nationale de France, où on m'a demandé de faire un Georges Sand.
Ah oui, très bien.
Alors, là, c'est un peu particulier parce que, en fait, il y a une partie de l'ouvrage qui est consacrée à des reproductions de manuscrits, de documents, des fonds, surtout de la BL, mais d'autres bibliothèques. Et là, le texte n'est pas très long, enfin, mon goût, mais je pense le rattraper sur les légendes, justement, de ces pages... de reproduction.
Très bien, bah écoutez, voilà. Je crois qu'on aura le plaisir de vous réinviter pour nous parler de Georges Sand et puis des textes.
Oui, parce qu'il y a quand même 48, il y a aussi là, des choses à dire sur elle. Oui, oui.
Ouais, tout à fait.
Tout à fait.
Très bien. Merci Marie-Hélène Bellac. Au revoir, à bientôt.
Au revoir.
Et puis, comme Louise aimait le piano, Frédéric, est-ce qu'on peut passer à la Chopin, la valse minute, Thierry Châtelain? Eh bien voilà, Louise aimait beaucoup le piano et elle avait d'ailleurs emmené son piano même en Angleterre, à Londres, comme l'évoquait tout à l'heure Marie-Hélène Bellac. Et nous passons au roman de la vie. Dominique.
Oui, je suis là.
Tu es là, parfait. Alors tu vas nous parler aujourd'hui d'un livre Staline.
Alors, attends, je t'arrête tout de suite. Avant de parler de ce livre, je voulais rendre un petit hommage à Jacqueline Duhem, qui vient de décéder. C'est une grande illustratrice des poètes Éluard, Aragon, Prévert. J'ai eu la chance de la recevoir dans la bibliothèque de ma ville, et donc c'était une femme extraordinaire.
Est-ce que tu pourrais nous en reparler dans une autre émission ? Oui. Ça mériterait peut-être qu'on y consacre un moment, puisque, après tout, c'est une émission sur les acteurs de la chaîne du livre, donc les illustrateurs, etc. Oui, ça peut, ça peut être bien. Oui, elle est décédée quand, alors ?
Là, hier.
D'accord. Ah bah oui, on est d'accord. Mmh. Et là, tu vas nous parler maintenant de Staline a bu la mer.
Oui, de Fabien Vincent aux éditions Anne Carrière en 2023. Alors c'est un Fabien Vincent n'est pas très connu, c'est un journaliste, producteur pour Arte, écrivain. Bon, il a écrit un seul livre avant, une autofiction un peu âpre sur l'emprise physique et mentale d'une grand-mère, c'est assez rare comme thème, sur son petit-fils, ça s'appelle la cul-singe.
La cul-singe, eh ben, que vient faire Staline dans l'histoire que tu vas nous raconter ?
Oui, alors, Staline est en fin de règne et de vie, et il est affaibli, mais il se refuse à reconnaître son déclin physique, et il essaie de trouver un ennemi à sa hauteur, la nature. Pour lui, il faut remodeler la nature, les paysages, les climats, dans une perspective de rééducation socialiste. Alors, il est persuadé d'être mis en danger par la lointaine mer d'Aral dans ses délires, hein. Et une mer qu'il juge inutile et peu poissonneuse, et en même temps, il veut développer les champs de coton, donc il décide l'assèchement de la mer d'Aral.
Mais c'est vrai, ça, ou c'est...
Ah c'est oui, c'est vrai, c'est vrai.
Oui, c'est vrai, ça, c'est vrai, ah d'accord.
Oui. Bon, alors bien sûr, là, c'est un roman parce que l'assèchement est confié à un jeune ingénieur qui s'appelle Léonid Borisov, qui est un personnage fictif, mais toute l'opération est vraie. C'est une opération classée secrète qui a reçu le nom de code La Grande Soif. J'ai été vérifiée, hein, elle donne lieu à l'expression du génie soviétique et pilotée par un collège de 9 académiciens, scientifiques de haut vol, partisans de ce faussaire là que fut Lysenko.
Ah oui, Lysenko, oui.
Oui. Alors, il y a une phrase, là, j'oublie un extrait, que cette mer lointaine soit mise à mort. Elle renferme la sédition en son sein. La science nous permettra d'effacer une mer frondeuse qui n'a pas sa place dans le monde radieux que nous édifions.
Oui, en effet.
Alors,
Alors, comment va-t-il pratiquer pour boire la mer ?
C'est là que j'ai appris, parce qu'on parle toujours de l'assèchement de la mer d'Aral, mais on se demandait comment il avait fait. Mmh. Alors, le 12 décembre 1950, il décide de creuser un grand canal turkmène qui détournera le fleuve Amoudaria vers la mer Caspienne, ainsi qu'un autre petit fleuve. C'est un chantier gigantesque de 1000 km à travers un désert, planifié en 5 ans, et qui doit s'accompagner de la construction de 3 usines hydroélectriques.
Bon, mais il avait la main-d'œuvre hein, pour faire ce genre de choses.
Oui, oui, oui. Alors, l'objectif, c'est de décupler la production de coton. Mmh. Il va envoyer 1000 hommes qui vont s'installer pour superviser les travaux et détourner les deux fleuves. Alors, je vous lis un extrait. Deux fleuves alimentent la petite mer perdue au milieu du désert, le Sir Daria qui dévale des monts célestes dans un tourbillon d'écume, tandis que l'Amoudaria bondit sur les pentes enneigées du Pamir où il prend sa source, réduisant en affluent toutes les rivières qu'il croise. Lequel des deux géants faut-il décapiter en premier ? Alors ce sera l'Amoudaria en premier.
Ce que j'aime beaucoup, c'est une autre citation, l'attitude honteusement anti-soviétique de la mer d'Aral.
Oui,
j'adore ça. Bientôt, on va passer en procès politique la mer d'Aral. Bon, c'est bien. Alors, quelle est l'attitude des habitants ?
Alors, bon, au début, ils sont un peu... Bon, ils pensent que ça va leur apporter un bénéfice économique. Il y a une première énorme explosion qui va secouer le pays, marquant les débuts prometteurs, même pour l'ingénieur, hein. Et puis, les habitants vont s'apercevoir que ça va être le début de la fin pour les Ouzbeks et les Kazakhs. Donc, d'abord fascinés pour l'intérêt de Moscou ou pour leur région reculée, les autochtones vont vite déchanter et entrer en résistance. Ils comprennent très vite qu'ils ont été dupés, que Staline ne les considère que comme une quantité négligeable et bientôt comme des rebelles. Donc, c'est toute une région qui va mourir, dessinée par les vents de sel, les bactéries libérées et semées au vent.
Mais alors, l'ingénieur, là, bon,
oui,
l'ingénieur fictif...
Oui, il va déchanter aussi, parce qu'au départ, il croyait au génie soviétique, et il voit son idéal patriotique et politique s'effondrer devant le désastre écologique et humain qu'il est en train de conduire. Alors, ce qui n'est pas prévu, il y a une belle histoire d'amour avec Elmira, bon, ça, c'est dans le roman, mais c'est surtout l'attitude de cet ingénieur, hein. Il dit, à un moment donné, les grands crimes contre la nature demeurent muets, et sans doute est-il trop tard pour y penser.
C'est d'une actualité rare, cette formule, hein, je dirais.
Oui. Ça va être le premier écocide. Mmh. Et puis, également, Staline va arrêter et torturer les opposants, les déporter en Sibérie, comme il fait d'habitude.
Ça, c'est un grand classique.
Oui. Ah. Et il va liquider toute la culture ouzbek. Mmh. Alors, heureusement qu'il est mort en 54, car il avait un projet d'assèchement de toutes les rivières d'Asie centrale.
C'est assez fou, quand même. Hein.
Oui.
Et la forme est assez originale du livre.
Oui. Alors, il alterne les chapitres ancrés dans le réel, donc il raconte l'avancée des travaux, l'état d'esprit de l'ingénieur. Et après, le chapitre d'après, c'est les délires un peu oniriques des autochtones sur les déesses qui peuplent la mer d'Aral, les déesses et les légendes. L'auteur cite beaucoup de poètes ouzbeks et Omar Khayyam, hein, qu'il cite comme auteur de la résistance. À un moment, il y a un poème qui dit « Bois du vin, vole sur les grands chemins, mais sois humain
oui. »
pour opposer aux Russes. Hein. Mm-hmm. L'auteur utilise régulièrement des termerismes ouzbeks, mais qui sont systématiquement traduits dans un glossaire très utile en fin d'ouvrage. Moi, j'y ai appris beaucoup sur la culture ouzbek, la gastronomie, les légendes, les vêtements, les poètes, les liens avec l'ancienne Perse. Bon, par exemple, dans le glossaire, il y a Anaïta, qui est une ancienne divinité perse. Des tissus ouzbeks qui s'appellent Adras, Vojd, le chef en russe. Donc, tout ça est bien expliqué. Hein. On n'est pas perdu.
Donc, et en plus, c'est une maison d'édition qui est initiée par une femme, puisque ce sont les éditions Anne Carrière.
Oui.
D'accord. Très bien, donc un livre intéressant, un livre sur une région et sur un phénomène qu'on ignore. Tu as bien fait de nous le présenter.
Oui. On voit les photos là, sur la mer d'Aral asséchée, mais on ne savait pas comment.
Oui, j'ai vu passer ça aussi sur les réseaux sociaux, où on voit clairement ce qu'il en reste, c'est-à-dire pas grand-chose. Alors, le prochain livre... Hein,
alors, on change de registre. Mmh. Ça s'appelle Le client mystère de Laurent Lauvergeat chez Scribe. C'est l'histoire d'un jeune homme qui exerce ce métier un peu particulier, hein, qui s'appelle client mystère et dont je vous raconterai un peu les arcanes.
Ah, donc on verra ça.
Voilà.
Bon, très bien. Merci Dominique, à bientôt.
Oui. Allez, bonsoir.
Au revoir. Alors, en préparant cette émission, au fil des pages, qui, je le rappelle, est quand même consacré aux femmes. On a parlé des femmes artistes, on a parlé de Louise Michel, on a présenté un livre d'une maison d'édition tenue par une femme. Je reçois un courriel de notre amie Florence, de l'émission Des cailloux dans l'engrenage sur Radio Libertaire, qui m'invite à consulter un livre, le livre d'Annie Coste, Les femmes musiciennes sont dangereuses, publié aux éditions Flammarion en 2023 dans la collection Les femmes qui. Vous savez, les femmes qui écrivent sont dangereuses, qui disent sont dangereuses, etc. Et j'ai trouvé ça intéressant de dire, après tout, il y a les femmes peintres, les femmes militantes, pourquoi ne pas aborder aussi les femmes musiciennes. Alors, je souligne aussi que dans l'émission Un classique, s'il vous plaît, qui est consacrée à la musique classique et qui est diffusée sur cette radio un mardi tous les 15 jours de 10h30 à 12h30, consacrer la prochaine émission, celle du 19 mars, nous allons la consacrer à la présentation d'œuvres de compositrices telles que Barbara Strozzi ou Germaine Taillefer. Annie Coste est une militante et entend démontrer combien les femmes ont été neutralisées dans la musique. Dès l'Antiquité, dans la mythologie grecque, les femmes sont considérées comme mauvaises, coupables, dangereuses. Les sirènes sont des formes de démons. Et même la muse Euterpe, celle de la musique, est sous la coupe d'Apollon. Il est loin le temps des Sumériens et des Égyptiens qui acceptaient les musiciennes égales des hommes. Les trois religions du livre excluent les femmes de la musique. Au IIIe siècle de notre ère, les chants féminins sont exclus des églises et pourtant Cécile, Sainte Cécile, est la patronne des musiciens. Songeons que lors de l'enterrement de Chopin, la pianiste Pauline Viardot, qui était pourtant admirée par Chopin, et une soprano se sont produites dissimulées derrière un rideau noir. Il ne fallait pas qu'on puisse les voir. Difficile pour elles, donc ces femmes, d'acquérir des connaissances de technique musicale, exclues de l'enseignement. Et, je cite, je cite Annie Coste, « Privé de toute possibilité d'éducation, d'expression et de plaisir, les femmes seront-elles même convaincues de leur soi-disant insignifiance et de leur incapacité de penser ou d'élaborer des œuvres. » Et c'est peut-être là le pire, c'est lorsqu'on arrive à convaincre les gens qu'ils sont incapables d'être autre chose que la médiocrité. Une artiste est une femme de mauvais genre, comme les comédiennes par exemple, d'autant que l'on érotise les artistes. On baigne en plein stéréotype. Et vous lirez ces pages effarantes, et même encore récemment, lors du décès d'Aretha Franklin, ses talents de compositrice sont passés sous silence. On n'y voit qu'une chanteuse, Les inégalités ont la vie dure. De l'Antiquité, Annie Coste reprend évidemment Sappho de Mytilène, qui invente la strophe saphique, la note dissonante. Au Moyen Âge, certaines femmes se font abbesses pour gagner en liberté, comme Cassienne de Constantinople, la célèbre Hildegarde von Bingen, qui ne sera pas canonisée en raison de cette passion pour la musique. Faut aimer quand même. N'oublions pas les trouveresses. Vous connaissez les trouvères. Il y a aussi les trouveresses, comme Béatrix de Dia, Clara d'Anduze, Marie de Ventadour, qui écrivent des poèmes et composent sous le regard réprobateur de l'Église. Passons au baroque. Les Italiennes sont innovantes. Maddalena Casulana est la première compositrice professionnelle. Francesca Caccini écrit le premier opéra féminin. Barbara Strozzi invente la cantate. Plus tard, Hélène de Montgeroux inspire les romantiques. Au classique du XVIIIe siècle, les femmes sont délibérément mises en retrait, telles la sœur de Mozart, Maria Anna, ou encore Fanny Mendelssohn, la sœur de Félix Mendelssohn. Il ne fallait pas qu'on puisse faire de l'ombre aux frères. Certaines investissent l'opéra comique, mais les critiques sont redoutables. Et on a des femmes comme, par exemple, Maria Semenovskaya, qui est étonnante de liberté au XIXe siècle, elle qui fut admirée par Chopin. De même, comme je l'ai dit tout à l'heure, de Pauline Viardot, appréciée par Berlioz, Franz Liszt, Chopin. Vous retrouverez dans ce livre des biographies, des courtes biographies, mais des échos à, évidemment, Clara Schumann. On en a déjà parlé dans l'émission Au fil des pages, mais aussi dans l'émission Un classique, s'il vous plaît, ou encore Amy Beach, les sœurs Boulanger, Germaine Taillefer. Et Annie Coste nous ouvre aussi le monde du jazz avec Blanche Calloway, Lil Harding Armstrong, Alice Coltrane, Nina Simone. Alors pour ce qui est de Calloway, Armstrong et Coltrane, vous connaissez l'homme, il y a aussi les femmes. Ce livre est une remise des pendules musicales à l'heure des inégalités femmes-hommes. De plus, vous goûterez la qualité de la mise en page, la richesse de l'iconographie et la précision des références des œuvres pour nous inviter à les découvrir. Et croyez bien que nous allons les faire partager dans notre émission Un classique, s'il vous plaît. En effet, notre émission Au fil des pages et l'émission Un classique, s'il vous plaît, se font un peu écho. En tout cas, c'est un livre de référence, c'est un très beau livre, un guide précieux, et je remercie encore Florence de me l'avoir conseillé. Je rappelle les références. Annie Coste, Les femmes musiciennes sont dangereuses, aux éditions Flammarion, publié en 2023. Et puis, n'oubliez pas, tous ces livres que nous présentons, vous pouvez les commander, bien évidemment, à Publico, chez Publico. C'est la librairie de la Fédération anarchiste, mais vous pouvez commander tous ces ouvrages, puisque nous leur transmettons systématiquement les références. Et puis, notre émission arrive à son terme. Là, je vais vous parler d'un petit livre d'un monsieur que j'aime beaucoup, George Orwell. Et le titre « Une bonne tasse de thé et autres textes ». Alors, Orwell, hein, so british évidemment, hein, mais tellement libre. Alors, découvrir ou relire des textes de George Orwell constitue toujours des moments de plaisir, de réflexion, par les interrogations qu'il nous adresse. Et les éditions Rivage Poche viennent de publier un recueil intitulé « Une bonne tasse de thé » dans la collection Petite Bibliothèque. Il s'agit d'articles parus dans des revues entre 1936 et 1948, les uns sérieux, interpellant le lecteur, comme l'article intitulé « Les écrivains et le Léviathan » de 1948, et d'autres plus légers, mais traduisant cette sensibilité so british. Comment préparer une tasse de thé, par exemple ? Orwell, qui vous écrit 1984, qui vous explique aussi que, pour un Anglais, c'est une question de fond, quasiment de civilisation. Et comment l'apprécier ? Entouré de livres ? Oh, je suis un peu... Oui, pourquoi pas ? Une évidence, mais rien n'est évident dans cette affaire. Et quel thé choisir ? Orwell en train de nous expliquer qu'il faut choisir tel ou tel thé. Quelle technique utiliser ? Quel processus ? Faut-il répandre le thé dans la théière ou utiliser les sachets ? On est bien loin, dommage à la Catalogne. Quelle controverse soulever ? Et avec un ton distant et chaleureux, cet humour britannique si important, comme Orwell le souligne, en ces temps de disette. Le texte est publié en 1946 dans l'Evening Standard. Dans la même lignée, nous avons droit à une défense en règle de la cuisine anglaise. Là, faut oser, hein. C'est un hymne à un aveu avec un aveu en conclusion. Je cite... C'est un fait que les restaurants typiquement anglais où l'on mange bien sont très difficiles à trouver. Les pubs, en général, ne vendent pour toute nourriture que des chips et des sandwichs insipides. Vous lirez la suite dans l'Evening Standard de 1945. Découvrez aussi sa passion, ça c'est très connu, vous découvrez sa passion pour son pub préféré, The Moon Underwater. Toujours dans un style anglais ? Sa réflexion sur le sport, comme en écho avec ce que nous allons subir lors des Jeux Olympiques et de ses joutes nationalistes. Et puis son expérience de libraire à la rencontre des publics bizarres est un grand moment de drôlerie. Mais il devient plus sérieux quand il défend l'intérêt de la lecture et la faiblesse de son coût en termes de loisirs en la comparant à celui des cigarettes. Heureusement, il y en a qui s'arrêtent de fumer. Si notre consommation de livres reste aussi basse, écrit-il, c'est parce qu'il est moins palpitant de s'adonner à la lecture que d'aller aux courses, au cinéma ou au pub. Ayons au moins le courage de l'admettre, et non parce que les livres sont trop chers. Le texte sur les lieux de loisirs m'a beaucoup intéressé aussi parce qu'il dénonce l'uniformisation des pratiques imposées et artificielles. Où est la liberté ? Et puis, beaucoup plus triste, son épouvantable expérience d'un hôpital parisien du 15e arrondissement. Je crois savoir où il se situe. Vous lirez sa description de la salle commune de 1929. Les malades et le mort délaissés dans le lit d'en face pendant toute une journée. Évidemment, Orwell, c'est la quête de la liberté. Et dans le dernier article, Les écrivains et le Léviathan, il s'interroge sur le rapport entre la politique et la littérature, soulignant les contradictions des auteurs engagés, dits progressistes. Je cite encore une dernière fois, bien que l'allégeance à un groupe soit nécessaire, elle n'en est pas moins pernicieuse pour la littérature, dans la mesure où cette dernière est une création individuel. Sitôt que l'on permet à ces allégeances d'exercer quelque influence, même négative, sur la création littéraire, on risque non seulement de dénaturer les facultés créatives, mais souvent de les tarir totalement. Allez, vous prendrez bien une tasse de thé. George Orwell, une bonne tasse de thé et autres textes publiés aux éditions Rivage Poche, collection Petite Bibliothèque en 2024. Dans la même série, et je termine, oui, j'ai juste le temps de terminer, puisque nous parlions de Louise Michel avec notre invité, je souligne la réédition des mémoires inédites de Louise Michel, À travers la mort, Mémoire inédite 1886-1890. C'est Claude Retta qui s'est occupé de cette réédition et ça a été publié en poche, La Découverte Poche. C'est fini pour aujourd'hui dans Au fil des pages. Vous retrouverez le Monde Libertaire de mars 2024, particulièrement riche, consacré au féminisme au pluriel. Un dossier coordonné par le groupe Pierre Bénard et les animatrices de Femmes Libres. Et je crois qu'on va aborder ce thème dans la prochaine émission qui suit. C'est fini pour aujourd'hui. Et nous nous retrouverons alors pour une émission enregistrée une émission qui avait été enregistrée, excusez-moi, le 24 janvier 2024. Nous recevions Éric Fougeron pour nous parler du livre Les Inconnus de la Commune, publié par cette association. Il est malheureusement décédé le 24 février. Nous lui rendons hommage par cette rediffusion. Nous n'oublions pas que le 26 mars 1871, la Commune était installée après son élection. C'est pourquoi le mercredi 27, vous aurez cette émission. Le 10 avril, nous nous retrouverons pour recevoir un co-commissaire de l'exposition sur la Renaissance, exposition à la BNF. Bonne lecture, merci et au plaisir de partager.
Avec la peur qui tend la patte, le ministère de ce prêtre et la pitié à la fenêtre et le client qui n'a peut-être ni Dieu ni maître. Le fardeau blême qu'on emballe comme un paquet vers les étoiles qui tombe froide sur la dalle. Et cette rose sans pétale, cet avocat à la serviette, cette aube qui met la voilette pour des larmes qui n'ont peut-être ni Dieu ni maître. Ces voix que l'on dit de justice et qui poussent dans les supplices et pour meubler le sacrifice avec le sapin de service. Cette procédure qui guette ce que la société rejette sous prétexte qu'il n'en peut être ni Dieu ni maître. Cette parole d'évangile qui fait plier les imbéciles et qui met dans l'horreur civile de la noblesse et puis du style. Ce cri qui n'a pas la rosette, cette parole de prophète, je la revendique et vous souhaite ni Dieu ni maître, ni Dieu ni maître.
Femmes libres.
Femmes qui se libèrent.
Femmes qui prennent la parole.
Femmes qui témoignent.
Femmes qui créent.
Femmes qui se révoltent.
Femmes qui luttent.
C'est Femmes libres
sur Radio Libertaire.
Reconnaissons-nous les femmes. Parlons-nous, regardons-nous. Ensemble, on nous opprime les femmes. Ensemble, libérons-nous.
C'est Femmes Libres sur Radio Libertaire.
Bonsoir à toutes et tous, c'est la 11e émission de cette année 2024, émission féministe et anarchiste, pour combattre patriarcat, capitalisme, religion, tous les pouvoirs qui nous oppriment, nous exploitent, nous discriminent. Nous sommes sur Radio Libertaire pour 2 heures d'antenne de l'émission Femmes Libres. Radio Libertaire, la radio sans Dieu, sans maître, sans publicité, la radio de la Fédération anarchiste. Eh bien, nous sommes avec Frédéric à la régie. Bonsoir Frédéric.
Bonsoir.
Et Hélène à l'animation. L'émission, c'est tous les mercredis entre 18h30 et 20h30. Le blog émission-femmeslibres.blogspot.com. Vous pouvez aller donc sur notre blog pour réécouter les émissions et avoir le programme. Et vous pouvez nous suivre aussi sur Facebook et Miss Cloud. Le programme de ce soir, féminicide par compagnon ou ex, les Noyonnelles avec une interview de Laurence Caour, Onella, c'est une entreprise qui est en grève, enfin les salariés sont en grève depuis 1 mois et 10 jours, et puis le dossier féminisme aujourd'hui du Monde Libertaire, avant de terminer par des informations, des communiqués, des rendez-vous. Nous démarrons donc par la rubrique féminicide par compagnon ou ex.